j'ai fait des petits portraits aussi.
On a beau faire ce travail de révélation, ça n'est pas entendu. Il y a un déni, toujours. Il y a effectivement un écran.
Quelques portraits subjectifs, quoi. Enfin,
Moi, je comprends que
les gens tels que je les ai vus en les rencontrant.
Que les journalistes, à un moment, disent « Ah bah oui, ça continue ». C'est vrai que c'est côté lancinant.
Bonjour Claudie.
Bonjour.
Alors d'abord, peut-être nous dire où nous sommes.
Oui, à la Digicosola.
Est-ce que c'est un endroit où vous venez souvent?
Bien sûr, je suis domicilié ici, donc j'ai un suivi social ici. Et voilà, je peux aussi prendre la douche, faire la lessive.
Et quand vous n'êtes pas ici, à la Digicosola, vous êtes où?
Ben, en fait, j'essaie de m'aider, d'aider beaucoup de personnes à s'en sortir. Donc, je ramène des SDF pour que l'équipe de rue puisse les suivre. Bon, donner un peu de temps libre à moi-même. Mon temps libre, je le donne aux gens de la rue, en fait.
Avant de venir ici, vous avez toute une histoire, un parcours.
En fait, avant, je suis un ancien militaire, donc j'ai vu la misère à travers le monde, tout par mon parcours militaire, bien sûr, mais aussi la souffrance des uns et des autres, ou qui là-bas, malheureusement, dans ces pays où j'ai pu aller, la misère, elle est grandiose. Il n'a pas d'aide comme il y a ici en France, en fait. Et tout ça me pousse à faire ce que je fais. Bon, moi, après ça, j'ai eu le décès de mon épouse et de mon fils dans un tragique accident de voiture. C'est moi qui ai quitté mon logement, je me suis mis à la rue. Donc, je ne suis pas parti à la rue parce que on m'a expulsé ou j'étais un incompris. C'est moi qui ai décidé cette vie.
Quand vous étiez militaire, vous êtes allé où en campagne?
Oh, j'ai fait le Tchad, j'ai fait le Soudan, j'ai fait la Nouvelle-Calédonie, j'ai fait Tahiti, j'ai fait deux fois l'Irak, une fois l'Afghanistan. Où là, j'étais blessé.
En rentrant de campagne comme ça, oui. Comment on se sent?
Sincèrement, on se sent impuissant. On se sent... Comment dire? On voit qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire, parce que, bon, malheureusement, là-bas, la bêtise des hommes font qu'il y a une guerre. Il y a... la souffrance assez par rapport à la pauvreté. Notamment, j'ai pu aller visiter l'Éthiopie et le Burkina Faso et la Mauritanie. Je dis, ici en France, en fait, on est quand même encore assez un pays assez enrichissant. Malheureusement, il y a un manque de subsides. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un manque de moyens que les services sociaux n'ont pas, que les associations, les collectifs n'ont pas. Et ça, c'est quand même malheureux en étant au XXIe siècle.
Quand vous avez connu ce drame personnel que vous avez raconté tout à l'heure, l'armée, qui était votre grande famille, ne vous a pas aidé?
Si, elle m'a beaucoup aidé, mais bon, c'est moi qui ne voulais pas d'aide, en fait. Moi, je voulais faire mon deuil, j'étais endeuillé par ça, j'étais endeuillé par mon handicap. Puis, bon, j'ai retrouvé un autre style de vie, en fait. Ça veut dire, j'ai travaillé pour d'autres personnes en faisant des enquêtes psychosociales à travers les rues de France, voir qu'est-ce qui n'allait pas, voir qu'est-ce qui se passait, voir comment on pouvait, peut-être par rapport au rapport que je leur envoyais, voir comment on pouvait réagir, mais apparemment, personne ne bouge. Et là, beaucoup de personnes me disent qu'il faut amuter l'opinion publique, mais comment? Là aussi, je me pose des questions. Comment peut-on ameuter l'opinion publique?
Par exemple, ce qu'on est en train de faire.
Voilà.
Les premiers moments que vous avez passés dans la rue, j'imagine que ça doit être très dur. C'est vraiment une rupture par rapport au monde que vous connaissiez avant, à votre rythme de vie. Comment est-ce que vous vous y êtes fait?
En fait, déjà avec mon caractère et la force d'énergie, c'est-à-dire il faut... Moi, bon, ma vie, c'était l'armée, c'était... Et je me souviens d'une parole que ma mère m'a dit sur son lit de mort. Elle m'a dit un jour, si jamais tu vois quelqu'un dans la rue qui a faim, achète-lui un bout de pain. Et quand tu l'auras mis en confiance, fais un bout de chemin avec lui. Et là, tu verras, tu l'auras construit un destin. Et c'est ce que je suis en train de faire.
C'est-à-dire que ce qui vous aide aujourd'hui à tenir dans la vie difficile, quand même, qui est la vôtre, hein, la rue, c'est pas facile. Ce qui vous aide à tenir, c'est d'aider les autres.
Voilà. C'est d'aider les autres, d'être à l'écoute. Parce que le social, il ne faut pas croire que le social, en fait, il a tout un travail psychologique derrière, et Sabine le sait par elle-même. C'est-à-dire, il faut savoir parler à la personne pour qu'elle accepte. De temps en temps, on se fait insulter. De temps en temps, on se fait envoyer sur les roses. Mais je veux dire, par là, il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller à l'encontre de cette personne et lui faire comprendre qu'il y a d'autres moyens que de se laisser détruire, que ce soit par l'alcool, par une rupture, parce que beaucoup de personnes sont dans la rue à cause d'une rupture. D'autres personnes, moi j'ai connu dans la rue des ingénieurs, j'ai connu des personnes qui avaient un bac plus 5 et tout ça. Donc... Mais malheureusement, les années de la ville ont fait qu'ils se sont retrouvés à la rue. Et ça, c'est de dire, bon, il faut les réinsérer. Et ça, c'est une chose, c'est un travail psychologique, c'est un travail social, c'est un travail très dur. Mais malheureusement, comme je dis et je le répète, malheureusement, il n'y a pas les moyens.
Dans la rue, il y a beaucoup de gens très différents les uns des autres.
Bien sûr, vous pouvez tomber sur beaucoup de personnes qui n'ont pas le même caractère, d'autres personnes qui ont des structures sociales différentes des autres. Il y en a que, bon, il y a des CAP, il y a des bacs, mais il y a aussi des gens qui ont une très grande intelligence, malheureusement, ils sont détruits par la vie. Parce qu'il ne faut pas croire, beaucoup de personnes, malheureusement, vous parlez tantôt encore des décès dans la rue, mais c'est ça, ils sont détruits par la vie, ils sont détruits de ce qui se passe. Il y a un mauvais plan hivernal qui se prépare. Et ben, justement, là il faut vraiment avoir l'aide, que ce soit des associations, que ce soit des collectifs, que ce soit l'aide de l'État, que ce soit l'aide de la mairie, que ce soit l'aide du Conseil général, il faut quelque chose qui soit fait. On arrive en hiver, c'est là où malheureusement les SDF sont les plus vulnérables, et c'est là qu'il faut agir.
Il faut agir comment, selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que les structures d'aide devraient faire, et qu'aujourd'hui encore elles ne font pas?
Malheureusement, c'est dans les structures d'aide d'urgence, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a un manque de suivi social. Quand je prends le cas de la Madrac ou tout ça, il y a un manque de suivi social, donc il y a un manque d'après. Maintenant, comme on dit, il n'y a pas 10 000 places ici à Marseille. Si je prends le cas de Marseille, puisque je suis à Marseille, il n'y a pas 10 000 places, donc on ne peut pas héberger tout le monde. Donc, il y a un très gros travail à faire. Quoi ? Là, c'est comme je dis, s'il aurait les moyens, peut-être, malheureusement, il ne les a pas.
C'est un manque d'argent, à votre avis? Les structures existent, mais elles manquent de moyens financiers? Ou bien il y aurait d'autres structures à créer, d'autres formes de structures, d'accompagnement, de présence dans la rue, aux côtés des SDF?
Mais en fait, il y a tout ensemble, en fait. Il y a un manque de moyens de personnel dans la rue, il y a un manque d'argent, et il y a un manque de structures. Il y a carrément les trois réunis, en fait.
Dans la rue depuis combien d'années, Claudie?
Moi, j'ai commencé à travailler comme ça depuis 2005, donc ça va faire 8 ans bientôt.
Et est-ce que pendant cette période, vous avez eu l'impression de voir de plus en plus de gens dans la rue, ou au contraire moins qu'autrefois ?
Bien sûr, il y en a beaucoup plus, puisqu'on a ouvert les frontières, on a créé l'Europe. Malheureusement, beaucoup de personnes arrivent ici. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des collectifs, on a des associations, on a des maraudes, on a les soins gratuits pour ceux qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas dans leur pays. Donc, bien sûr, il y a beaucoup plus de monde maintenant, à l'heure actuelle, qu'il y a 10 ans, c'est sûr. Malheureusement, bon... Voilà, et ça, ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup plus de demandes, qu'il y a beaucoup plus de travail, que les services sociaux ne savent pas répondre à toutes les demandes, et ils ne font rien. Donc oui, il y a tout qui va ensemble.
Donc le nombre des sans-domicile fixe augmente, les moyens, eux, n'augmentent pas, les politiques ne changent pas.
Au contraire, ils diminuent, la politique ne change rien, et voilà.
Est-ce que tu as l'impression que la politique peut faire quelque chose, que c'est en changeant un maire, un président du Conseil général ou un président de la République que ça peut avoir un impact ? Est-ce que les politiques sociales, politiques de santé différentes, suivant qu'elles soient de droite, de gauche, etc., vous en ressentez, vous, l'impact dans la rue ?
Je sais que la politique peut faire bouger les choses, parce que bon, je suis quand même en contact avec beaucoup de personnes au sein de l'État. Mais malheureusement, comme, vous savez, comme M. Hollande l'a dit, le président de la République, il faut 30 milliards, il va falloir qu'il aille les chercher. Donc, est-ce qu'il va pouvoir donner quelque chose pour les conseils généraux ? Est-ce qu'il va pouvoir aider plus ? Ça, je n'en sais rien, puisque ce n'est pas sa priorité apparemment, puisque sa priorité, c'est l'intérieur, la défense et... la sécurité sociale. Donc, je ne sais pas s'il y aura quelque chose de fait, en tout cas pas avant 2014, puisque c'est ce qui a encore été dit dernièrement. Donc, je ne sais pas s'il y aura quelque chose de changé pour les gens de la rue.
Est-ce que vous votez vous-même ?
Bien sûr, je vote.
Est-ce que beaucoup de gens qui sont dans la rue votent ?
Il y en a qui votent, mais il y en a qui ne votent pas, bien sûr. Mais je dis... on vote, sincèrement, on vote pour qui ? Ça, on se demande. Je ne sais pas si M. Hollande fera un meilleur quinquennat que M. Sarkozy. On laisse encore à désirer, puisque maintenant, d'après les dernières informations, beaucoup de personnes regrettent M. Sarkozy. Donc...
Sarkozy, c'était le Karcher, quand même.
Oui, bien sûr, parce que bon, il y a eu une mauvaise politique. Moi, je me souviens d'un jour où il a demandé aux Français de se serrer la ceinture, alors que lui, il venait de faire x9 avec son salaire.
Et vous serrer la ceinture, ça résonne évidemment quand on vous demande de vous serrer la ceinture et que vous n'avez pas grand-chose.
Bien sûr, parce qu'en attendant, il est quand même Français, donc c'était lui le président à montrer l'exemple. C'était lui à prouver que lui aussi, il était Français, qu'il était avant tout notre représentant au sein de l'État. Malheureusement, il n'a pas fait. Quand je vois qui disait « travailler plus pour gagner plus » et « le travail revient aux gens qui se lèvent tôt », je crois qu'il parlait surtout beaucoup des SDF. Parce que moi, je vois certains SDF, 6h moins 10 du matin, ils sont déjà là comme ça, devant l'épicerie, elles ferment à 22h, 16h de travail par jour, à tendre la main et à lever le coude. 480 heures par mois, eux, ils n'auront pas le droit d'avoir 60 ans pour avoir la retraite. Voilà.
Comment est-ce que vous avez un peu d'argent, vous bénéficiez du RSA ? Est-ce qu'il vous arrive de demander de l'argent dans la rue ?
Non, des gens, je l'ai fait pour des enquêtes, mais en fait, les gens, de temps en temps, ils me donnent, mais bon, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je ne touche pas le RSA, j'ai une allocation d'adulte handicapé, et tous les 3 mois, je touche de l'armée. Donc, je n'ai pas besoin. Si je veux, j'ai un logement, mais pour le moment, je suis obligé de changer de temps en temps de département pour dire de continuer mon travail que j'ai à faire avant. Mais je dis, c'est malheureux, c'est malheureux.
Autrement dit, maintenant, vous pourriez, en fait, vous êtes sorti de cette phase de crise personnelle, de drame personnel,
oui.
Vous pourriez avoir un appartement, et quelque part, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Vous pourriez me dire pourquoi ?
Oui, bien sûr. Parce que le travail ne s'effectue pas dans un bureau, ne s'effectue pas en journée. Le travail, c'est le soir qu'on voit vraiment la dangerosité de la rue. En journée, bon, il y a tous les passants qui passent, il y a des voisins qui sont réveillés. Donc... Mais le soir dans la rue, c'est devenu vulnérable, c'est devenu agressif, c'est une rue agressive. La situation, c'est pour ça que je dis, l'hiver en plus approche. Beaucoup de personnes, malheureusement, se font agresser dans la rue le soir. Pourquoi ? Pour voler peut-être 1 euro, peut-être 2 euros à un SDF qui dort dans la rue. Donc c'est ça, la dangerosité, c'est ça qu'il faut mettre, qu'il faut justement parler au public, de dire, voilà, il y a quelque chose là qui ne va pas. Vous mettez des personnes en danger. Vous mettez des... Et après, on dit, oui, mais un SDF s'est retrouvé avec un coup de couteau dans... C'est là qu'il faut agir. La dangerosité, c'est la nuit. Malheureusement, il n'y a pas assez de place en foyer. Malheureusement, il n'y a pas assez de moyens. Mais il faut donner ces moyens.
Si déjà la nuit, c'est dangereux pour des hommes, alors j'imagine ça l'est encore plus pour des femmes. Est-ce que vous voyez dans la rue de plus en plus de femmes,
oui,
aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, je vois de plus en plus de femmes. Bon, le problème des femmes, c'est que c'est un manque de toilettes publiques. Ça manque, bon, malheureusement, c'est malheureux à dire, mais quand elles ont leurs règles, c'est encore plus embêtant pour eux. Parce que, bon, elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas comment faire. C'est encore pire pour les femmes. Moi, quand je vois des gens dans la rue, qui même avec des enfants, notamment les Roumains, faire de la mendicité avec des enfants, je trouve ça aberrant au XXIe siècle. Qu'on laisse des enfants faire la mendicité dans les rues de France. C'est incompréhensible.
Elles sont dangereuses, mais il n'y a pas que les rues qui sont dangereuses. On a aussi parfois des échos que les accueils de nuit, c'est dangereux aussi. On a des gens qui ont raconté qu'on s'y battait beaucoup, on s'y volait beaucoup, on s'y violait même parfois. Vous avez eu des témoignages dans ce sens, vous ?
Oui, bien sûr, pendant les enquêtes, j'en ai vu tout plein des témoignages. J'ai même été dans des foyers moi-même. On se fait voler, on se fait agresser parce que les personnes sont en état d'ébriété, ils agressent les autres. Malheureusement, il y a des proies faciles. Et voilà. C'est sûr que les foyers, c'est pas non plus tout le temps en sécurité. Malheureusement, là aussi, il y a un manque de personnel. C'est vrai que quand ils sont 5 dans un foyer à surveiller à peu près 200 bonhommes, là, on voit qu'il y a un problème.
Vous pensez pas qu'il faudrait des foyers un peu différents et qu'au lieu d'un foyer qui accueille 200 lits, il faudrait peut-être des structures plus petites et qu'il y en ait un peu partout dans Marseille ?
Comme je vous répète, avec quels moyens ?
Ouais, c'est peut-être pas plus onéreux de faire 5 foyers de 100 lits qu'un foyer de 500.
Mais si, mais pour ça, je vous répète, oui, ce serait mieux. Mais pour ça, il faut les moyens. Qui va vous les donner, les moyens ? Ça reste un point d'interrogation.
À Marseille, c'est compliqué quand même quand on doit circuler d'un endroit où on va se laver à un autre endroit où on va manger, à un autre endroit où on va dormir, à un autre endroit où on va faire des papiers. C'est un peu compliqué cette circulation dans la ville.
Non, parce que la plupart des SDF, il faut savoir qu'ils perçoivent... Enfin, une partie des SDF perçoivent le RSA, donc ils ont la carte gratuite des transports. En plus, ici, ils ont la chance à la DigiConsola que certains puissent bénéficier de cartes de transport pour leur démarche. Donc, je dis, il y a quand même quelque chose qui peut être fait. Il faut savoir qu'ils peuvent téléphoner au 115, qu'il y a les maraudes qui tournent et qu'ils les prennent en charge pour les amener à la Madrec, par exemple. Donc, je dis non, c'est pas une difficulté de circuler à Marseille.
Alors justement, s'il y a eu parfois des retours sur ce qui se passe dans les accueils de nuit qui sont très critiques, il y a aussi pas mal de critiques sur le 115 et le SAMU social. Quelle expérience vous en avez eu, vous ? Quel regard vous portez sur le travail du SAMU ?
Sincèrement, là-dessus, je porte aucun regard, parce que bon, chaque 115 n'est pas le même, ça dépend des départements, mais bon, moi je sais que en étant conseiller combattant invalide, moi à Paris par exemple, ils m'ont dit que j'étais pas prioritaire parce que j'avais des ressources, que je pouvais me payer l'hôtel, donc, mais ça c'est autre chose.
Mais sinon, vos amis, vos collègues qui sont dans la rue, ils vous disent des choses quand même sur comment ça s'est passé, comment ils ont été traités parfois par le SAMU social, qui a un rôle important, hein, évidemment. Mais donc, parfois, les modalités d'action ne sont pas terribles, disons.
Disons qu'il y a toujours des gens qui vont se plaindre de tout. On le voit, par exemple, dans n'importe où vous allez, que ce soit avec le 115 ou même dans... Ils sont toujours en train de se plaindre. Je revois qu'ils allaient manger à la cour Julien, ils sont en train de se plaindre que la nourriture n'est pas bonne, bon, alors qu'ils ont déjà la nourriture gratuite. Il y en a d'autres qui vont se plaindre, par exemple, de l'équipe de rue, d'autres qui vont se plaindre... Ben bon, il faut rester à sa place, en fait. Donc je porte aucun critère là-dessus.
Est-ce que vous pensez qu'à Marseille, il y a suffisamment de maraudes, justement, de gens qui sortent de leur bureau, de leur fauteuil confortable, pour aller au-devant, pour aller vous parler, pour être là où, finalement, il faut agir? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde dans les rues à vos côtés?
Ben, disons, dans la rue, il y a du monde. Mais bon, il y a du monde, mais bon, il faut connaître les squats, il faut connaître les endroits cachés, que malheureusement tout le monde ne sait pas. Il y en a qui préfèrent boire plutôt que de se bouger, on peut dire ça comme ça. Et d'autres qui, si tu ne les accompagnes pas, ils ne feront rien. Donc, c'est pas la faute de l'équipe de rue, c'est pas la faute du 115, c'est qu'il y en a qui sont comme ça. C'est comme s'il leur fallait un deuxième père ou une deuxième mère pour dire « je te prends par la main et je t'emmène à la DJ ». On est en train de suivre avec Sabine un monsieur, je ne dirai pas le nom, mais hier il n'a pas voulu venir voir Sabine, alors que c'était pour récupérer son RSA. Donc, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Donc c'est pas un manque de la part de Sabine, c'est pas un manque du 115, c'est un manque de volonté de sa part. Lui a préféré rester avec sa bouteille de rosé plutôt que de lui revoir Sabine.
L'alcool, ça fait évidemment des ravages, et puis peut-être d'autres addictions aussi, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est le reflet d'une dépression, finalement? C'est-à-dire que si on s'enfonce dans l'alcool, c'est parce qu'on n'est vraiment pas bien, parce qu'on est dans un état dépressif, et que ça relève quelque part d'une... forme de maladie mentale, enfin de quelque chose qui devrait être soigné et pas non plus forcément condamné.
Bien sûr, l'addiction à l'alcool, c'est une maladie. L'alcoolisme est reconnu comme une maladie par tous les professionnels de santé, c'est sûr. Mais maintenant, est-ce qu'ils boivent pour dire d'oublier? Est-ce qu'ils boivent pour dire de s'en sortir? Moi, je sais que si je bois pour dire d'oublier, c'est faux, parce que le lendemain, quand je vais me réveiller... les problèmes seront toujours là. Donc, il y en a qui s'enterrent là-dedans. Il y en a qui... Pourquoi ? Parce qu'ils sont imbibés par l'alcool. D'autres qui boivent pour oublier. D'autres qui boivent parce que... je ne sais pas pourquoi. Et certaines personnes qui boivent un verre de temps en temps, mais qui font leur démarche. Donc, il y a plusieurs catégories de SDF dans la rue. Il faut être là pour tous. On ne peut pas dire, ouais, toi, tu ne bois pas, on va t'aider. Toi, tu bois, tu es un alcoolique, on ne t'aide pas. Ce n'est pas possible. Ce serait une discrimination.
Squats tout à l'heure, d'endroits secrets où oui. Des gens se cachent un petit peu. J'imagine que c'est pour échapper à ce que vous expliquiez tout à l'heure, la violence de la rue. Ils sont un peu à l'abri. Vous en connaissez beaucoup de ces endroits et comment ça se passe à l'intérieur?
Mais en fait, dans les squats, c'est simple. Normalement, on essaye d'éviter d'être trop nombreux. Ça, c'est la première priorité. Puis, bon, il y a le respect. Puis, il y a le non-vol. S'il y en a un qui vole, il se fait éjecter par tous les autres. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans les squats. Le deuxième, c'est de voir aussi l'hygiène. Quand j'ai voulu rentrer la première fois ici, j'ai demandé à Sabine de désinfecter le bureau avant de l'interview. Donc c'est quelqu'un que je ne dormirai pas dans un squat avec lui. Ça, c'est clair. Et voilà comment ça se passe dans les squats. Bon, après, il y a les agressions, il y a les bagarres entre eux quand ils sont en état d'ébriété. Ça, il faut savoir mettre de l'ordre là. C'est pour ça que je dis, on essaye toujours d'éviter de ne pas être trop nombreux.
Souvent, ces squats, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, en fait, qui viennent de l'étranger, ou bien pas forcément.
Ben, ces squats, c'est beaucoup aussi des pays de l'Est. Faut s'imaginer, ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement. Mais disons, oui, souvent, c'est des étrangers, enfin, européens, maintenant, ils sont européens. Donc, mais c'est beaucoup des pays de l'Est, dans les squats. Il y a 2-3 squats avec des Français, c'est pas ça. Moi, plus des pays de l'Est qu'autre chose.
Est-ce que dans la rue, on se regroupe comme ça par origine ? Les Roumains avec les Roumains, les gens des pays de l'Est avec les pays de l'Est, les Lorrains avec les Lorrains, les Bretons avec les Bretons.
La Roumanie fait partie des pays de l'Est, monsieur.
Oui, c'est vrai.
Oh. Non, mais souvent, oui, ils circulent ensemble, ils sont souvent plus nombreux, ils sont très entre eux, ce qui n'a pas chez les Français, en fait. Parce que moi, quand je vois même partout des gens, par exemple pour les sans-papiers qui manifestent, des gens pour que s'ils manifestent, mais les Français, ils se plaignent, mais j'en vois aucun descendre dans les rues et de dire la vérité en face. Et ça, c'est ça qui se passe en France, c'est qu'ils n'ont pas le courage de s'unir pour dire la vérité là où elle doit être dite.
Vous pensez qu'il pourrait y avoir comme ça une forme d'union et que tous ensemble, vous puissiez vous rendre plus fort et vraiment interpeller les pouvoirs publics, interpeller la population ? Vous pensez que c'est possible ?
Non, franchement, non, parce que... Non, ce serait pas possible, parce que... C'est pas possible, parce que... Malheureusement, j'ai essayé de rassembler, j'ai essayé d'unir, notamment à Paris, à Montpellier, à Bordeaux, pour essayer de faire quelque chose devant... les maires, et je vois que non, tout le monde me disait oui, et il n'y a rien qui se faisait en fait.
Je vois que vous avez beaucoup bourlingué en France, hein, Paris, Bordeaux, oui, Marseille. Est-ce que la situation est très différente dans chacune de ces villes ?
Oui, je vois que par exemple, notamment en Alsace, à Strasbourg, il y a beaucoup plus de moyens donnés aux sociaux. Par exemple, vous allez voir un travailleur social à la mairie de Strasbourg, un parc de l'Étoile. Ben là-bas, si vous n'avez rien, vous avez des bons pour aller au trésor public. C'est un bon qui peut aller jusqu'à 200 euros. De temps en temps moins, ça dépend de la personne, ça dépend s'il y a des enfants, ça dépend là, beaucoup de la situation. Que, malheureusement, dans certaines villes, il n'y a pas. Par exemple, si je prends le cas de Lille, vous pouvez aller voir l'assistante sociale. Vous avez, en plus de votre RSA, à la CCAS de Lille, ils vous donnent des tickets service. Si vous allez à Paris, c'est la même chose. Vous avez le droit à une trousse de toilette. La PSA Bastille, qui se trouve à 5 rue Lacuée à Paris, par exemple, vous paye le premier APL. Ce qu'il n'y a pas ici à Marseille. Bon, Paris, c'est Paris.
Parce qu'il y a plus d'argent à Paris ? Parce que Marseille est plus pauvre ?
Ça, je ne saurais pas vous le dire. Je ne suis pas du trésor public. Hein. Non, mais je ne saurais pas vous dire que c'est l'argent qu'il a dans les caisses de la ville ou dans les caisses du Conseil général. Je ne peux pas vous dire ça. Mais je dis, hein, ça dépend où vous êtes. Ça dépend... À Bordeaux, c'est le même. Il a plus de moyens. Pourquoi ? Ça, je n'en sais rien.
Est-ce que dans toutes ces villes que vous avez traversées, Paris, Bordeaux, Marseille, les SDF sont les bienvenus dans le centre-ville ?
Partout, oui. Enfin, partout. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ni la police, ni rien. Bon, malheureusement, sauf près des grandes surfaces commerciales, en fait. Donc, ils évitent quand même pour la mendicité près des grandes surfaces commerciales, ou sinon.
Dans le centre-ville, ici à Marseille, il n'y a pas des centres de police. Vous-même, vous n'avez jamais été ennuyé par eux, contrôlé par eux ou expulsé par eux. Et vous n'avez jamais été témoin qu'ils viraient des sans-domicile fixe du centre-ville de Marseille.
Ah si, j'étais témoin j'étais témoin de tout ça, même des agressions sur SDF, des arrestations musclées de la police, mais bon, ça c'est autre chose.
Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens se faisaient tabasser par les policiers ?
Allez leur demander.
D'accord. C'est quand même pas normal, hein, ce type de comportement-là, qu'on soit, quel que soit son statut, qu'on habite quelque part ou qu'on habite dans la rue, les flics sont pas là pour tabasser les gens. Hein.
Non, je suis tout à fait d'accord, mais bon, il faut voir ce qui se passe, il faut voir aussi les insultes qu'il y a envers eux. L'agression, quelquefois, même envers les policiers, quelquefois, ils en ont un peu au-dessus de la casquette, comme on dit. Et de temps en temps, ils dérapent. Il faut les comprendre aussi. C'est des personnes qui sont incomprises. Moi, je le sais, je l'ai dit, je le redis, c'est des personnes qui sont incomprises. Parce que à la moindre erreur qu'ils commettent, eux, ils ont l'IGS sur le dos, mais ils ne voient pas non plus tout ce qui se passe. L'IGS ne voit pas tout ce qui se passe dans la rue. Donc, je ne prends pas le parti de ces gens, je ne prends pas le parti des policiers, je ne prends aucun parti. Et là, je me réserve le droit à la parole.
Quand on est SDF, c'est important de pouvoir accéder au centre-ville parce que c'est là où il y a beaucoup de monde, c'est là où c'est éclairé, donc il y a peut-être moins de danger. Et c'est aussi là où on peut gagner quelques sous, enfin mettre un chapeau par terre et puis avoir un petit peu d'argent. C'est important pour un SDF de pouvoir continuer à accéder au centre-ville.
Non, sincèrement non, parce que plus il y a de monde, moins les gens donnent. Donc c'est normal, ils vont pas donner tous les deux mètres. Donc moi je dis non, il faut mieux essayer de trouver un coin beaucoup plus tranquille où il y a personne. Que de se mettre où il y a 40 personnes dans une rue. Moi, quand je remonte la rue de Rome et que je vois qu'il y en a déjà 20 sur la rue de Rome, de la préfecture de police jusqu'à Castellane, il y en a 20 qui font la mendicité, je dis, ils gagnent rien. Donc non, ça ne sert à rien de tout rassembler sur le centre-ville, ça ne sert à rien.
À Marseille, par exemple, l'essentiel des lieux d'accueil, ils sont soit au centre-ville, soit dans les quartiers nord. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de SDF dans les quartiers sud, ou alors on ne les voit pas.
Je sais pas, moi j'en côtoie tous les jours, je vous dis qu'il y en a. C'est parce que vous ne fréquentez pas les bonnes rues. Hein.
Où ça, par exemple ?
Il y en a à la rue de Rome, il y en a à Castellane, il y en a à la rue du Rouet, il y en a à Cantigny, il y en a au Prado, il y en a ici à la Canebière, il y en a partout. Donc par ici c'est le quartier sud. Donc non, il y en a beaucoup. Il y en a plus que dans le quartier nord en tout cas.
Et est-ce que vous pensez que dans Marseille on peut trouver partout des endroits où on peut faire ses besoins? Et des endroits où on peut se laver, au moins une douche, ne serait-ce qu'une douche froide, par exemple. Et on trouve ça facilement, ou un dispensaire médical, on trouve ça partout, ou est-ce qu'il y a vraiment deux, trois adresses dans la ville et pas plus ?
Disons que celui qui sait se démerder, il arrive à se laver tous les jours. Moi, avant, je venais pas tous les jours prendre ma douche ici, j'allais à l'hôpital de la Conception, j'allais dans les toilettes handicapées, il y a un lavabo à l'intérieur, je me lave à l'intérieur des toilettes. Où il y a le parc du centenaire, il a les toilettes, vous pouvez vous laver à l'intérieur des toilettes, vous raser, ici et là. Celui qui veut vraiment se bouger et se démerder, il peut se démerder et se laver, tous les jours. Mais pour ça, il faut qu'il bouge.
Et qu'il connaisse les endroits, qu'il connaisse les plans, quoi. Et ça se dit, ça, entre gens qui vivent dans la rue, tiens, tu devrais aller là-bas, ou on garde ses plans un peu pour soi.
Ben non, mais vous savez très bien que tout le monde sait qu'il y a des hôpitaux dans Marseille. Hein. S'il n'y a pas d'hôpitaux à Marseille, je ne sais pas ce qu'il fallait se faire soigner alors. Mais après, il y a les associations, il y a l'équipe de rue qui passe, qui les informe, il y a le 115 qui les informe, puis il y a les restaurants du cœur qui tournent, qui les informe, il y a le secours catholique qui les informe. Donc je le dis, non. Puisqu'il y a même les petits livres qui sont distribués. Avec tout pour se laver, pour dormir, pour manger. Donc non, même pour se soigner.
Et quand vous alliez à l'hôpital pour prendre votre douche, vous étiez toujours bien accueilli, ou est-ce que des fois on vous demandait ce que vous veniez faire là ?
Non, toujours bien accueilli. Tout le monde a le droit d'aller aux toilettes, c'est des toilettes à l'intérieur de l'hôpital. Bon, bien sûr, il ne faut pas foutre le bordel non plus, et rester propre quand même. Mais ils m'ont jamais rien dit.
Vous avez déjà eu des problèmes de santé et puis devoir être hospitalisé, par exemple, vous-même ?
Oui, bien sûr, puisque j'ai une ligamentoplastie et je suis BPCO, donc j'ai une bronchopneumopathie chronique obstructive, puisqu'on m'a coupé une partie du poumon. Donc, oui.
Et vous êtes traité comme un patient normal. On ne vous pose pas de questions particulières parce que vous n'avez pas d'adresse fixe, que vous êtes domicilié peut-être ici, dans un accueil de jour. Pour eux, ça ne leur pose pas de problème.
Non, puisque bon, moi j'ai déjà, je suis sécurisé social et en plus je paye ma mutuelle, donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent ?
Il y a parfois comme ça des circonstances dans lesquelles on a beau être comme vous, un citoyen tout à fait normal, qui est enregistré, qui est à la sécu, qui a sa une source de revenus, mais la seule différence c'est que vous n'avez pas un appartement. Et ces citoyens-là, vous n'avez pas le sentiment qu'ils sont un petit peu regardés de travers, mais au fond... quelque part, on a un peu le droit aussi de ne pas avoir un appartement.
Enfin, moi, je n'ai pas à me plaindre. Chaque fois que j'ai été hospitalisé, moi, ils me connaissent quand même depuis des années. Mais je veux dire, moi, jamais regardé. Au contraire, on m'a toujours aidé. Directement, l'assistante sociale, elle arrivait. Elle me demandait si j'avais pas besoin de vêtements, si j'avais pas besoin d'une trousse de toilette. Je vais pas dire. Peut-être maintenant, d'autres... voir dans les conditions aussi qu'ils arrivent. Moi, je sais qu'une fois, j'ai été conduire quelqu'un à l'hôpital. Bon, il y en avait un. Il a insulté des médecins. Vous comprenez bien que... Il faut aussi avoir du respect aussi via le professionnel des santé. Mais si vous restez respectueux, si vous restez à votre place, non, on est soigné comme un autre patient.
Vous croyez qu'il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'ils ont envie d'y être ? La plupart du temps, on y est parce qu'on a subi une situation dans sa vie, une circonstance, qui fait qu'on s'est retrouvé là. Mais vous rencontrez parfois des gens qui ont vraiment choisi d'être dans la rue parce que c'est un mode de vie et qu'ils ont choisi ce mode de vie-là ?
Oui, bien sûr. J'en connais tout plein, que ce soit à Paris, que ce soit ailleurs. J'en connais tout plein. Et beaucoup de personnes me disaient... Ouais, quand j'avais l'appartement, j'avais le travail, je payais les impôts, je payais ci. De temps en temps, à la fin du mois, je devais faire les mégots. Maintenant, je suis dans la rue. Ils font même pas le RSA. Ils disent, ça sert à rien. Ils gagnent plus en faisant la mendicité qu'en ayant le RSA. Et ils sont pas emmerdés par un contrat d'insertion ni rien. Donc, oui, beaucoup de personnes se mettent à la rue parce que la rue rapporte plus que de faire un contrat d'insertion, d'aller voir son assistante sociale, de faire ci, de faire là. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde dans la rue à l'heure actuelle qu'auparavant. Moi, j'ai connu à Paris, j'ai connu une infirmière qui travaillait, qu'elle s'est mise à la rue, elle dormait dans sa voiture. Elle disait quand elle avait tout fini de payer, il lui restait même pas 300 euros pour vivre. Elle a tout abandonné, elle dormait dans sa voiture. Tous les jours, elle allait travailler, elle était infirmière. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans la rue. À cause de la difficulté, de la crise économique, de la vie chère, comme on peut dire. Elle est très chère, la vie. Malheureusement, maintenant, on n'a plus... Avec 50 euros, vous n'avez plus rien. Oui. Beaucoup de personnes se mettent dans la rue à cause de tout ça.
Et quand on a longtemps vécu dans la rue, et qu'à un moment, on dit maintenant, basta, ça suffit, je veux retrouver un toit sur ma tête, avoir un appartement, c'est facile ou pas, de revenir en arrière.
Oui, mais pour ça, il faut la volonté, il faut avoir un bon mental, je vais dire comme ça, et avoir un bon suivi. Mais il y en a qui le font, il y en a qui veulent s'en sortir, il y en a qui veulent retrouver un travail. Comme je dis, il y en a qui veulent rien. Donc, toute personne, moi j'en connais tout plein ici depuis des années, puisque j'ai connu ici en 2005, j'en connais que maintenant ils ont l'appartement, ils ont le travail. Mais ces gens-là ont tout fait pour arriver là. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Et vous, Claudie, si vous choisissiez un moment de revenir habiter quelque part, dans un appartement, qu'est-ce qui provoquerait cette décision-là? Qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur de ça pour vous?
Ça va bientôt se passer, donc ça va se passer en 2013, puisque j'ai décidé que j'arrêtais le travail de rue. Ça va se passer en 2013.
En 2013, il va se passer pas mal de choses, tiens, d'ailleurs, à Marseille.
Oui, mais ce ne sera pas sur Marseille.
Ah, d'accord. Changer de ville?
Oui. Je monte à Paris. Et je m'installe là-bas.
Pour y retrouver des gens que vous connaissiez? Quelque chose que vous avez vécu là-bas?
Non, pas du tout.
En ce moment, c'est plutôt les Parisiens qui descendent à Marseille. Hein. Alors, en Marseille, qui montent à Paris?
Non, pas du tout. C'est m'installer là et travailler normalement là-bas. Tout en quittant la rue.
Voilà. 2013, capitale culturelle européenne, voilà. Vous avez dû en parler, hein. Voilà. 15 millions de touristes qui vont débarquer dans les rues de cette ville. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la vie des gens qui sont dans la rue?
Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Peut-être par rapport aux touristes, peut-être. Mais je ne crois pas que ça n'aura un impact.
Bah, par exemple, on pourrait souhaiter qu'ils ne soient pas dans les endroits touristiques, vous voyez ce que je veux dire, hein, les virer de certains endroits, ou au contraire, peut-être que ça peut être intéressant.
C'est sûr, puisque maintenant, même si vous faites prendre en train de faire la mondialité, il y en a apparemment qui ont déjà eu des amendes. À ce moment-là, ça dépend ce que le préfet de police va décider. C'est lui le seul qui décide.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette interdiction de la mondialité?
Je trouve ça ignoble. Chacun a le droit. Maintenant, pourquoi? Malheureusement, il a eu beaucoup de problèmes avec des gens qui faisaient la mendicité, qui insultaient des gens parce qu'ils ne voulaient pas donner une pièce. Ils les insultaient, critiquaient. Quelquefois même, ils se battaient avec ces personnes, ils les agressaient. Et je crois que bon, le préfet a pris une décision, mais ça ne revient pas à moi de décider la décision du préfet. Maintenant, voilà. Voir pour qui, pourquoi. J'ai pas à donner mon avis là-dessus. Puisque c'est un avis préfectoral, donc je sais quand même rien faire.
Peut-être, Claudie, pour conclure cet entretien, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à l'ensemble des gens qui sont dans la rue? Peut-être qu'il y en a un certain nombre qui vont écouter cette émission. Est-ce qu'il y a un message comme ça que vous avez envie de passer à tous les gens qui sont dans la rue?
Ben, c'est qu'ils perdent pas espoir, qu'ils se laissent aider par les travailleurs sociaux, par les gens qui veulent les aider, qu'ils prennent une bonne décision une fois pour tout, et que l'hiver arrive, l'hiver risque d'être rude, et que c'est le moment qu'ils réagissent. Voilà.
Et est-ce que, Claudie, vous avez un message à adresser à ceux qui ne sont pas dans la rue, ceux qui sont bien confortablement chez eux?
Ben, de ne pas regarder un SDF... comme un être anormal, le regarder simplement comme un être humain, et voilà. Et je dis, tant que l'opinion publique n'ouvre pas les yeux, et tant que les personnes adéquates à des services, notamment comme le conseil général, la mairie, ou même l'État, n'ouvre pas les yeux sur les gros problèmes, il y aura des morts dans les rues de France. Voilà.
Vous avez déjà vécu cette circonstance, vous, d'avoir quelqu'un que vous connaissez très bien et qu'on a retrouvé un beau matin, oui. Décédé?
Oui, bien sûr, mon meilleur ami avec qui j'habitais, il est mort ici sur la Canebière.
Vous pouvez en parler ou c'est encore trop dur pour vous?
Non, mais bon, je vais pas salir sa mémoire ni rien. Qu'il repose en paix. C'est tout.
Merci, Claudie.
De rien.
Vous écoutiez un grand entretien avec Claudie dans le cadre de la thématique Autour de Terres communes. Prochain rendez-vous dans cette thématique demain à 17h10. Un reportage de Stéphanie Arougnan de chezalbert.fr, où vous pourrez retrouver un dossier et une cartographie interactive sur les sans-abri à Marseille. Toutes les émissions de la thématique Autour de Terres communes sont en écoute sur radiogrenouille.com.